1901 sur 90, c'est la radio des assos.
Une émission proposée par l'AGLCA, Centre Ressources pour la vie associative et l'économie sociale et solidaire de Bourg-en-Bresse, avec l'aide précieuse de Radio B. Chers associatifs et associatives, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver en cette rentrée et particulièrement heureuse d'être de retour en studio avec les camarades de Radio B et avec vous, auditrices et auditeurs de l'autre côté du transistor, et vous aussi, invités dans ce studio. Nous avons connu de longs mois de coupure car les restrictions de jauge nous empêchaient de nous réunir dans le studio. Avant d'accueillir notre invité du jour, une nouvelle voix nous rejoint. Je vais la laisser se présenter.
Bonjour, bonjour Nathalie, bonjour à toutes et tous, je m'appelle Marissa Rombelin et je suis chargée du point d'appui à la vie associative à la GLCA depuis maintenant plus d'un an. Je suis vraiment ravie de prendre la suite de Loïc et de faire partie de cette belle émission sur les ondes de Radio B. Nous recevons aujourd'hui Anne Storer, trésorière de la Confédération Paysanne de l'Ain, qui nous reçoit par téléphone depuis chez elle à la campagne. Bonjour Anne.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, la Confédération Paysanne est une confédération de syndicats départementaux dotée d'instances nationales choisies selon les règles et de fonctionnement démocratique. Depuis 1987, la CONF est un acteur majeur de syndicalisme agricole français qui porte des valeurs de solidarité et de partage. Le projet pour une agriculture paysanne qu'elle défend avec constance depuis sa création est cohérent et global. Anne Storer, trésorière de la Confédération Paysanne de l'Ain, va nous en dire plus. Et juste après son interview, nous vous parlerons des actualités de la vie associative.
1901 sur 90 sur Radio B. On vous présente l'asso du jour. En quelques mots, Anne Storer, pouvez-vous nous présenter l'association ?
Oui, bonjour. Donc, merci de nous donner la parole. Donc, en introduction, vous avez déjà eu un peu l'historique et la manière dont fonctionne la Confédération Paysanne. Donc, nous, à la Confédération Paysanne de l'Ain, nous sommes une centaine d'adhérents. Nous avons aussi beaucoup de sympathisants dans la société civile qui suivent notre projet de près, parce que donc, comme il a été dit, le syndicat porte un projet d'agriculture paysanne, un petit peu en réaction au modèle actuel qui est plutôt un modèle d'agriculture industrielle et qui malheureusement fait baisser le nombre d'agriculteurs de manière un petit peu inquiétante et en conduisant aussi à l'agrandissement des fermes. Donc ça fait longtemps que le message de la Confédération Paysanne va dans ce sens-là. Il est peut-être de plus en plus entendu. Il a quand même un petit peu de mal à se faire entendre par le syndicalisme dominant, mais on ne perd pas courage, on est un collectif assez actif et comme je le disais, on a avec nous la société civile, ce qui n'est pas rien. On a beaucoup de contacts avec eux, beaucoup d'échanges pour qu'ils appréhendent mieux l'agriculture et une agriculture qui convienne pour le bien de tous. Donc notre action repose sur quatre piliers. Donc le premier, c'est la représentation dans les instances agricoles qui orientent les politiques évidemment agricoles. Le deuxième pilier, c'est les actions collectives, donc pour lutter contre les forces en présence, évidemment, et elles sont nombreuses. Le troisième pilier, et pas des moindres, c'est un pilier très actif, hein, aussi actif que les autres, mais qui a tendance à beaucoup se développer, c'est le développement de l'agriculture paysanne par l'intermédiaire de notre association départementale pour le développement de l'emploi agricole et rural, donc c'est l'ADAR pour être plus court. Donc cette association qui travaille avec nous organise des formations et accueille de plus en plus les installations d'agriculteurs qui ne sont plutôt majoritairement pas originaire du milieu agricole. Donc, pour l'instant, c'est vraiment, il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là, et nos instances agricoles sont peut-être un peu plus désemparées que nous, la Confédération paysanne, pour les accompagner dans ce cheminement avec l'aide donc de l'ADR. Et enfin, le quatrième pilier, sans lequel la Confédération ne pourrait pas fonctionner correctement non plus, c'est la défense individuelle des paysans, donc qui est portée par le comité d'action juridique, qui accompagne, qui éclaire, qui soutient les agriculteurs qui ont des difficultés face à un problème juridique sur leur exploitation.
D'accord, voilà. Merci beaucoup Anne. Donc vous nous parliez des piliers. Quelles sont les valeurs que l'association porte ?
Les valeurs, c'est l'agriculture paysanne. Alors comment expliquer l'agriculture paysanne ? Je pense que c'est une agriculture qui travaille plutôt localement. Qui a tendance à s'intégrer dans ce qu'on appelle maintenant les territoires. C'est une agriculture qui avant tout veut maintenir l'emploi agricole, donc avec comme objectif d'avoir beaucoup d'agriculteurs, parce qu'on pense que ça va de pair avec une agriculture de territoire. C'est une agriculture aussi qui soutient les démarches qui vont vers une agriculture plus en accord avec l'environnement, donc pas seulement l'environnement social, mais l'environnement aussi physique. Donc on a souvent des positions un peu différentes des autres agriculteurs sur, par exemple, la gestion de l'eau, ce qu'il faut faire pour combattre les aléas climatiques, ce qu'il faut faire aussi pour essayer quand même de ne pas devoir employer des matériels, des tracteurs et des machines trop importantes qui endettent trop les fermes, pour essayer de développer aussi l'autonomie des fermes le plus possible. Donc ce qui va à l'encontre du modèle qui existe depuis les années d'après-guerre et qui a eu son temps sans aucun doute, hein, il fallait moderniser l'agriculture, mais il aurait peut-être fallu à un moment donné faire un point de situation et voir s'il n'était pas temps de freiner un peu la manœuvre, puisque maintenant on se rend compte aussi, et ça tous les citoyens sont impactés, que beaucoup d'argent public peut être mis dans l'aide aux agriculteurs par le biais de la PAC, la politique agricole commune, et que ça doit être temporaire pour permettre après d'être autonome, et maintenant beaucoup d'exploitations sans les aides ne peuvent pas subsister, donc ce n'est pas une situation durable pour nous.
Très bien. Et au quotidien, comment fonctionnez-vous ? Vous parliez de bénévoles tout à l'heure. Je crois que vous avez un conseil d'administration aussi des salariés. Comment ça fonctionne ?
Alors donc, on a un comité départemental, ce qu'on appelle, hein, donc qui est composé d'une dizaine de personnes, donc tous des agriculteurs. On a un bureau plus particulièrement donc qui travaille quotidiennement au sujet traité par la conf. Donc c'est une trésorière, donc ça c'est moi. On n'a pas vraiment un président, une secrétaire, mais on a un porte-parole et un secrétaire. Voilà, c'est plutôt ça, un porte-parole qui intervient beaucoup dès qu'on est sollicité. Et puis on fonctionne avec une salariée, donc on n'a pas énormément de moyens, puisque les syndicats sont aidés, et malheureusement, comme nous ne sommes pas le syndicat majoritaire, nous ne sommes pas énormément aidés, donc nous devons beaucoup faire face à nos financements par nous-mêmes, et on a une salariée à temps partiel. Donc je tiens à préciser que les salariés qui travaillent dans des structures comme les nôtres sont souvent des salariés très engagés, très motivés, et sans lesquels on ne pourrait pas fonctionner, parce qu'ils sont extrêmement réactifs et ils adhèrent évidemment au projet, puisque c'est un syndicat militants. Donc, ça, les profils sont toujours des profils très intéressants et qui apportent beaucoup d'idées et d'énergie à notre structure.
D'accord. Quelles sont un peu donc du coup les activités de l'association et qui peut adhérer à cette association et est-ce que vous avez beaucoup d'adhérents?
Alors donc on a en tant qu'agriculteur ou porteur de projet, on a toujours une centaine d'adhérents. C'est bien, ça pourrait être mieux, mais c'est déjà très bien. Donc on augmente, on a une bonne visibilité malgré le faible nombre d'adhérents. Les acteurs sont souvent étonnés qu'on soit aussi visible avec si peu d'adhérents, puisque effectivement c'est parfois les moyens financiers qui bloquent un peu pour faire plus. On a aussi donc les personnes qui nous soutiennent et donc au niveau national, la Confédération paysanne a créé ce qu'on appelle les amis de la Confédération paysanne et donc ça c'est des personnes de la société civile qui peuvent non seulement aider au financement, nous encourager, mais aussi participer lorsqu'on organise des événements extérieurs. Alors, bon, ça c'est pour la Confédération paysanne en tant que tel organisme politique, mais je n'ai pas parlé de l'ADAR, qui est l'organisme de formation et d'accompagnement, où là également ils ont des salariés, donc ils ont plusieurs salariés, mais tous à temps partiel, qui eux bénéficient, comme c'est un organisme de formation, ils bénéficient d'aide publique. Donc eux ils font un travail exceptionnel, mais ils sont plus facilement financièrement, c'est plus facile. Enfin, ils seraient pas contents si je disais ça, parce qu'ils se battent pour rédiger des projets qui amènent des financements, donc ça leur tombe pas comme ça du ciel. Mais effectivement, il y a des programmes qui sont alloués pour eux, pour la formation, et donc si, comme ils présentent des projets valables, ils peuvent obtenir des financements de cet ordre-là, alors que nous, on est dans un fonctionnement syndical, donc ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Et le comité d'action juridique dont je parlais, il fonctionne avec la Confédération paysanne. Donc il y a aussi un groupe de personnes, donc tous des agriculteurs, qui sont bénévoles, qui ont une connaissance juridique des dossiers, et puis qui font appel à... On a deux juristes qui nous aident. On a un juriste au niveau de la région, une juriste au niveau de la région Aura. On va bientôt en embaucher une autre parce qu'il y a quand même beaucoup de travail. Et on a aussi une très bonne juriste au niveau national, donc qui sont aussi investis que n'importe quel salarié à la cause des agriculteurs et de l'agriculture paysanne.
Très bien. Et moi, je voulais revenir aussi sur votre actualité. Je crois qu'il y a un temps fort qui est prévu dans quelques jours pour vos adhérents. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, donc alors, je vous remercie de nous donner la parole là-dessus, parce que c'est un moment important dans l'année. On a une fête paysanne qui se fait chaque année. Donc malgré le Covid, on a pu passer à travers, c'est-à-dire qu'on l'a fait à une période où évidemment il ne fallait pas être confiné. Et puis donc on a respecté et on respecte encore pour celles qui s'annoncent le cadre qui nous est mis pour qu'elle puisse avoir lieu. Donc cette année, cette fête paysanne est le 10 octobre. Elle a lieu à Sainte-Croix, donc ça a toujours lieu chez un agriculteur. Donc là c'est chez Geoffrey Levrat, un de nos adhérents qui est éleveur ovin. Donc le but de cette fête, c'est de se réunir tous les adhérents pour recharger les batteries aussi, parce qu'on se rend compte que il faut aussi quand même qu'il y ait un peu du festif dans notre combat, ça permet de renforcer le collectif et de découvrir aussi les fermes de notre syndicat. Donc, puisque dans la journée, il y a non seulement donc le matin, il y a une projection d'un et un débat à partir de la projection d'un film autour de la gestion de l'eau, qui est quand même un dossier très politique, enfin très préoccupant et très politique pour l'instant. Et donc après, nous avons un repas paysan, évidemment avec tous des produits qui sont produits localement dans notre département par des agriculteurs. Et après l'après-midi, on visite la ferme et donc on voit toutes les initiatives et notamment Geoffrey Levrat, une initiative en agroforesterie sur sa ferme. Et donc il va nous expliquer la démarche, puisque ça c'est une démarche qui est où il y a de l'aide publique et qui a et auquel les à laquelle la conf est très attachée, puisque c'est pour remettre de la biodiversité dans notre environnement. Et la biodiversité, tous les auditeurs sauront que c'est un sujet aussi qui est très actuel, puisque par l'agrandissement des fermes, on a quand même plus l'artificialisation des sols aussi, on a beaucoup contribué à la diminuer et on supprime ainsi des auxiliaires qui sont très précieux pour l'agriculture.
Merci. Alors, on va écouter une chanson et on revient tout de suite après. Merci.
J'aurais préféré pour toi juste inverser le cours des choses. J'aurais aimé.
Et toi ?
Une main tendue, une rose.
J'aurais aimé de toi la certitude d'un geste. Simplement quand ça ne va pas, ne pas se fuir comme la peste.
Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème.
J'aurais préféré, ma foi, éviter nos sombres démences. Et maintes fois, oublier partir en vacances. En vacances de toi, mais comme l'amitié nous rattrape à chaque fois. Autant tenir quand ça dérape.
Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème.
J'aurais bien voulu, tu sais, tenir le cap, sauver les murs, courir sans m'arrêter, ne pas frissonner sous l'armure. Et j'aurais voulu, tu sais, la longue traversée tranquille. J'aurais même imaginé
ne jamais atteindre une rive. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème.
Aimer, tu sais, éviter nos fausses mesures. J'aurais même préféré de nous une lettre d'injure.
J'aurais voulu parfois, oui, t'étrangler aux quatre vents, te serrer dans mes bras. Ah, ça, je l'ai voulu souvent. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Récolter ce que l'on sème, ce que l'on sème, ce que l'on sème, ce que l'on sème, ce que l'on sème.
Nous sommes de retour avec Anne Storer, trésorière de la Confédération paysanne de l'Ain. Anne Storer, quelques mots sur les enjeux pour l'agriculture aujourd'hui avec le contexte Covid.
Les enjeux avec le contexte Covid, au début ça a été très dur, voilà, parce qu'il a fallu mettre en place trouver des solutions pour que nos agriculteurs, notamment qui livraient sur des marchés, trouvent une solution pour écouler leurs marchandises. La production aussi de volailles de Bresse, par exemple, il y a des abattoirs qui, n'ayant plus de débouchés à l'export, dans la restauration, ne pouvaient plus acheter les marchandises non plus. Donc, il y a eu plusieurs difficultés, mais où on a mis en place des réseaux de solidarité de telle manière que les agriculteurs ne restent pas sur les bras avec leurs marchandises. Ensuite, il y a eu les agriculteurs qui pouvaient quand même vendre chez eux, donc à la ferme, qui eux ont vu leur demande exploser. Donc ils avaient beaucoup de difficultés à suivre la demande, donc eux ont pu écouler leurs marchandises. Après, on a cru un petit peu que ça continuerait une fois que l'étau s'est un peu resserré. Ces fermes-là ont gardé des agriculteurs, des consommateurs qui sont restés fidèles. D'autres, je pense, ont vu une baisse. Alors, on a aussi dit, on a beaucoup réfléchi là-dessus et on a pensé aussi que dès qu'il y a eu le déconfinement, les gens ont eu la bougeotte, ils ont eu envie de partir, d'aller ailleurs, pas forcément très loin, mais donc du coup, comme on a des agriculteurs en vente directe, ils ont une consommation locale, ces gens-là étaient partis, donc ça montre aussi que cette nouvelle manière de consommer, qui est une bonne manière et pour les agriculteurs, puisque ça leur permet de récupérer la valeur ajoutée, et pour les consommateurs, parce que souvent c'est produit dans des conditions qui correspondent mieux au bien-être animal, c'est souvent des animaux qui sont en pâture, c'est souvent des fermes aussi qui sont en agriculture biologique et tout ça, donc ça montre aussi que il y a une demande, mais qui malheureusement, quand la situation redevient normale, peut baisser parce qu'il y a toujours cette fameuse épée de Damoclès où on dit qu'il faut manger, on dit pas qu'il faut manger pas cher, mais il y a quand même toujours ça, il faut que la nourriture ne coûte pas cher, mais qui dit de la nourriture pas chère dit pas forcément toujours de l'excellente nourriture, et puis ça entraîne une désertification des territoires aussi, et donc c'est un problème qui est assez compliqué pour l'instant parce qu'on est dans une phase de bascule. On voit déjà que les hypermarchés ont moins de clientèle, mais les grandes surfaces malgré tout proposent toujours des choses moins chères et sont toujours associées aux industries agroalimentaires qui elles aussi c'est l'industrialisation de la vente d'aliments, donc pour l'instant c'est difficile, et d'autant plus que par temps de Covid, il y a aussi des gens qui ont eu des salaires largement diminués.
Comment vous voyez un peu l'avenir la Confédération paysanne de l'Ain, c'est quoi les enjeux de demain et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
Ça c'est une grosse question. Bon, l'avenir, on le voit positif, parce qu'autrement, si on n'est pas dans cet état d'esprit-là, on peut pas trouver la force en soi pour avancer, partager et convaincre. Donc on est positif. Maintenant, je vous cache pas que c'est ce que je disais, le collectif est vachement important. Parce que les forces en présence sont très fortes. Les enjeux, de toute façon, ils sont multiples. Hein, si vous, enfin, maintenant, tous les auditeurs entendent beaucoup de choses, que ce soit par la radio, la télé ou Internet et les réseaux sociaux. Mais les enjeux, je vous ai dit, c'est l'eau, c'est l'installation, c'est les pesticides, c'est la rémunération, c'est le bien-être animal. Donc, on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Et c'est pour ça que... on essaie de plus en plus d'intervenir quand il y a des débats ou des demandes de prise de parole pour montrer qu'en fait tout est dans le même le projet est global, mais tout se tient, je veux dire tout se tient. Donc si on arrive à changer le modèle, et ben ça fonctionnera.
Merci Anne. C'est l'heure de mettre un point final à notre interview. Merci beaucoup Anne Storer d'être venue jusqu'à nous, même à distance. Avant de vous quitter, simplement juste comment on peut contacter ou trouver votre association, la Confédération Paysanne de l'Ain.
Alors, par Internet, moi je ne suis pas la spécialiste, mais de toute façon, il y a des coordonnées. Si vous tapez Confédération Paysanne de l'Ain, vous allez certainement arriver sur un site que notre salarié alimente. Et en tous les cas, les coordonnées. Si vous voulez avoir une vue plus vaste de ce que fait la Confédération nationale, vous allez sur la Confédération nationale. Là, ça, j'y vais de temps en temps pour voir un petit peu, puisqu'ils nous donnent des idées pour des communiqués de presse et tout ça. Donc ça, c'est intéressant. Et puis donc, nous sommes à Bourg-en-Bresse à la MCC. Et vous pouvez venir nous voir, frapper à la porte.
Merci Anne Storer et au revoir.
Au revoir.
1901 sur 90 sur Radio B. L'actu associative.
Petit focus sur l'actu associative et sur les deux lois qui ont été promulguées cet été en faveur des associations. Loi 1901. Visant à leur faciliter la vie sur le terrain de la responsabilité juridique des dirigeants bénévoles et en matière de trésorerie.
Et elles sont sorties quand dans l'été ?
Elles ont été promulguées le 1er juillet 2021. C'était le jour symbolique du 120e anniversaire de la loi Waldeck-Rousseau du 1er juillet 1901. Qui a créé le contrat d'association qui définissait l'association comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager les bénéfices, bien sûr.
Et que prévoient ces deux nouvelles lois ?
Alors, tout d'abord, donc la loi du 1er juillet 2021 en faveur donc de l'engagement associatif prévoit l'allègement des risques juridiques pesant sur les présidents, qui était prévu jusque-là aux seuls dirigeants de société, mais elle s'étend maintenant aux dirigeants de toute personne morale. Alors que le président d'association pouvait être saisi sur ses fonds propres en cas de faute de gestion, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actifs ne sera plus engagée. Il y a aussi le soutien à la gestion de l'emploi qui était réservé jusque-là aux associations de moins de 10 salariés. Le dispositif Impact Emploi proposé par le réseau des URSSAF sera étendu à toutes les associations de moins de 20 salariés. Il s'agit là de soulager les petites associations employeuses en leur permettant de déléguer à une association tiers de confiance l'ensemble des formalités administratives. Et aussi l'éducation. Une sensibilisation à la vie associative sera désormais au programme de l'enseignement moral et civique et sera édité par le ministère chargé de l'éducation nationale. Ensuite, la loi du 1er juillet 2021, toujours, mais celle-ci visant à améliorer la trésorerie des associations, met en avant la possibilité de conserver des excédents de subvention, c'est-à-dire que la convention de subvention devra désormais préciser les conditions d'utilisation et les modalités de contrôle et d'évaluation de la subvention. Également, un délai de paiement général de 60 jours. Ce délai de paiement de la subvention devient la règle générale, à moins qu'il n'ait été notifié autrement par convention. Également de nouvelles possibilités d'accès à des fonds. La loi prévoit qu'une partie des sommes issues des comptes inactifs et recueillies par l'État soit reversée au bénéfice du développement de la vie associative selon un montant précisé dans le rapport annuel de la Caisse des dépôts de suivi de ces fonds. Et ensuite, pour terminer, un rapport sur la fiscalité liée aux dons. Suite aux évolutions récentes de la fiscalité et notamment le passage de l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF, à l'impôt de la fortune immobilière, IFI, un rapport sera par ailleurs établi sur la fiscalité liée aux dons et les moyens de promouvoir la philanthropie.
Et si on veut en savoir plus ?
Eh bien, pour en savoir plus sur ces deux nouvelles lois, rendez-vous sur Légifrance à l'article numéro loi 2021-874 et 2021-875 du 1er juillet 2021. 1901 sur 90 sur Radio B, l'agenda de la GLCA.
Moi, je voulais vous parler un petit peu dans l'actu du nouveau site web de la GLCA, donc un nouveau site en ligne depuis cet été, qui va permettre de mieux faire connaître nos missions et nos services et offrir des informations et des ressources aux associations indinoises, aux acteurs de l'ESS et au grand public. Voilà, donc vous pouvez retrouver notamment une présentation de tous les services de la GLCA, le point d'appui à la vie associative, le dispositif local d'accompagnement, la gestion sociale des employés associatif, le POLESS. Également trouver des ressources avec des fiches-outils conçues par le point d'appui à la vie associative pour vous guider dans toutes les étapes de la vie de votre association. Et puis vous retrouvez aussi également nos actualités pour ne rien rater. Voilà, donc vous pouvez trouver notre site donc à l'adresse www.aglca.asso.fr. Dans l'actu également de la GLCA cet automne, eh bien, il y a la formation des bénévoles. Que vous soyez dirigeant associatif employeur ou bénévole, vous souhaitez vous former pour mieux comprendre les différents aspects de la fonction employeur associatif, eh bien, on vous propose le module fonction employeur en présentiel à MCC avec plusieurs sessions, plusieurs dates. On trouvera notamment gérer la filiation de son association aux organismes sociaux. Ce sera le 12 octobre prochain. Également la gestion des ressources humaines salariées, là ce sera le 2 novembre. Et puis tout savoir pour décrypter un bulletin de salaire, là ce sera le 9 novembre. On vous propose également des formations à la carte, notamment développer ses financements, autofinancements et subventions. Là, ce sera le 3 novembre à Servas. Et puis également organiser une assemblée générale dynamique et vivante le 16 novembre prochain à Brest-Vallon. Voilà, donc vous retrouverez aussi toutes les informations sur le site internet et puis le formulaire d'inscription en ligne. Je voulais aussi également évoquer le point asso sur la convention collective de l'animation Éclat, avec donc une présentation du syndicat Exopé et puis la nouvelle rémunération 2022. Donc là, je vous donne rendez-vous le mardi 12 octobre de 19h à 21h30 à la MCC de Bourg-en-Bresse. Donc là, ça concerne principalement les dirigeants d'associations employeuses qui appliquent bien sûr la convention collective Éclat, donc qui est la convention ex-animation. Au 1er janvier 2022, le calcul de la rémunération est modifié. Donc, que vos payes soient traitées en autonomie via le CEA, le chèque emploi associatif, ou via un prestataire, donc un cabinet comptable ou autre, cela vous concerne. Voilà, donc ce point asso vous permettra d'y voir plus clair sur les modalités d'application de l'avenant 182 qui porte sur la modification de la rémunération dans la convention collective. Voilà, donc là, vous pouvez vous inscrire également pour participer à ce point asso en ligne sur notre site www.aglca.asso.fr.
Merci, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.
À bientôt. Sur 90, la radio des assos, c'est fini pour aujourd'hui.
On se retrouve le mois prochain sur Radio B ou quand vous voulez en podcast sur les sites de Radio B et de la GLCA à la rubrique 1901 sur 90.